Libradio, la radio qui prend l'air et qui fait le beau temps. www.libradio.org.
Alors, nous sommes donc ensemble jusqu'à 21h, c'est Libradio, www.libradio.org. Roxane, donc bienvenue à toi.
Merci.
Donc, nous allons parler ensemble de la situation, enfin, de la situation, en tout cas, de l'actualité de cette problématique très complexe qui concerne ces personnes qui sont logées, pour ainsi dire, peut-on appeler ça logées, mais qui sont en tout cas, qui habitent dans des bunkers, dans des abris anti-atomique dans des conditions particulièrement dures, difficiles. Mm-hmm. On a vu récemment la police se plaindre d'y avoir passé 3 jours.
Tout à fait.
Eux, ils passent des mois et des mois et des mois. Donc voilà. Alors j'aimerais, pour que l'on comprenne tous ensemble la situation actuelle des faits, relire ce communiqué de presse qui a été donc produit par Perse Frontière. En quelques mots, voudrais-tu dire toi quelques mots à propos de Perse Frontière ou je le fais moi ?
Je te laisse ça.
Alors écoute, voilà, on va juste rappeler que Perse Frontière est un collectif qui est composé, qui est en fait un collectif fêtier des différents collectifs qui, au cours du temps à Genève, depuis 2014, se sont mis en place, en commençant par le collectif d'occupation du Grutli à l'époque, avec également Nos Bunkers, Stop Renvoi. Et ces collectifs se sont rassemblés pour ne former plus qu'une entité, pour pouvoir avoir plus de poids dans les négociations qu'ils entreprennent avec les différentes les séides et les différentes édiles locales. Alors donc, Perse Frontière, c'est eux qui, désormais, comme ils réunissent ces différents collectifs, eh bien, organisent ces manifestations et organisent la solidarité de la société civile. Alors voici le communiqué qui a été fait le 27 janvier 2007 à la sortie en gros de la manifestation de solidarité avec les personnes en exil et notamment de solidarité quant à l'accueil qui est fait de ces personnes en exil. Communiqué de presse du collectif Perse Frontière, retour sur une manifestation où certaines et certains n'ont pas pu se rendre. Ce vendredi 27 janvier, plus de 500 personnes ont joyeusement défilé dans les rues de Genève pour revendiquer de meilleures conditions d'accueil pour les personnes en exil et mettre les autorités face à leur échec. Après plusieurs prises de parole en différentes langues, sur la promenade de la Treille, le cortège flamboyant et bruyant s'est ébranlé direction l'Hospice Général et les rues basses où il a été rejoint par une population solidaire. Après 2 heures de défilé, le cortège, fortement encadré par une police intimidante, entre parenthèses, voltigeurs, canons à eau, etc., je ferme la parenthèse, est arrivé au Grutli, lieu symbolique, puisqu'il avait été occupé en 2015 par le collectif Nos Bunkers. La manifestation a été suivie par un moment convivial. Autour d'une soupe éclairée par des torches, la colère des manifestants s'est exprimée au travers de slogans tels que, je cite, « No borders, no nation, stop deportation » ou « C'est pas les réfugiés, c'est pas les immigrés, c'est Pierre Maudet qu'il faut virer ». Clos la citation, repris encore par les manifestants. On voit bien qu'il y a quand même un côté humoristique dont on imagine la dangerosité hein, pour qu'il
tout
faille à ce point-là encadrer avec moult policiers et puis un canon à eau. Hein.
Oui.
N'est-il pas, Roxane ?
Bien sûr.
Tu nous en diras plus après. Les bunkers, toujours ouverts malgré les engagements des autorités. Alors que près de 400 personnes dorment toujours sous terre, 2 ans après l'engagement de M. Poggia de fermer les bunkers fin 2016, nous avons peine à croire ce dernier lorsqu'il déclare que plus de 1000 places devraient voir le jour en 2018. La facilité avec laquelle M. Poggia s'assied sur ses engagements nous fait craindre qu'il n'hésite pas à reloger les habitants du foyer Franck Thomas dans des conditions plus désastreuses encore qu'avant sa rénovation. Le foyer Franck Thomas, juste pour expliquer en 2 mots, c'est un foyer qui a été effectivement également ouvert à coup de courage de la société civile et qui est en phase de rénovation, mais voilà, pour lequel on a des garanties qui tendent à décliner, pour le moins. La police intimide les manifestantes et les manifestants. Le collectif Perse Frontière dénonce la provocation scandaleuse de la police cantonale qui, tout en délivrant l'autorisation, a indiqué qu'elle procéderait à des contrôles préventifs d'identité aux abords de la manifestation. La police n'a ainsi pas hésité à fouiller le matériel du collectif, donc 2 charrettes contenant de la soupe et du vin chaud, là aussi, dangerosité extrême du collectif ayant organisé la manifestation avant le départ, alors même qu'il avait été annoncé à la police que celui-ci serait amené. Ironiquement, ce contrôle a eu lieu sous les yeux ahuris du même M. Poggia qui passait par là. Interpellé, M. Poggia a préféré se débiner discrètement plutôt que d'assumer le sale travail de la police cantonale. Le résultat est là, de nombreuses personnes en exil ont annoncé qu'elles ne prendraient pas le risque de venir ce soir, bien entendu, les personnes en exil qui se mobilisent subissent une répression toujours plus forte de la part des autorités. Se faire contrôler lors d'une manifestation représente une menace réelle pour elles d'enfermement, de renvoi ou de représailles ultérieures de l'administration. On a assisté à ce type de représailles par ailleurs avec le collectif. Il y a 2 ans, le collectif Stop Bunker a lu une lettre ouverte devant le parvis de l'Hospice Général pour dénoncer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, aucun des concernés n'a osé lire le texte en public qui avait été écrit pour l'occasion. La police de M. Maudet a eu ce qu'elle voulait. L'exercice d'une liberté d'expression élémentaire a été retiré aux personnes qui ont déjà le moins la parole. Le collectif Perse Frontières n'entend pas en rester là et refuse de laisser s'implanter une politique d'asile carcérale qui se résume à ségréguer les personnes en exil pour mieux renvoyer celles et ceux à qui elles refusent protection. Plutôt que de construire des foyers dans lesquels les personnes en exil puissent vivre dignement, l'État construit des centres de renvoi fédéraux. Nous ne laisserons pas Pierre Maudet transformer Genève en fer de lance du volet carcéral de la politique d'asile. Et pour rappel, le collectif Perse Frontières, et j'en finis là, plusieurs choses. La communication publique d'un plan de création de 560 places, un calendrier précis de l'ouverture de ces places d'accueil avec une échéance précise des fermetures des bunkers, la description précise des conditions de place prévues, la réintégration des habitants du foyer Franck Thomas et l'arrêt immédiat des projets de construction d'un centre fédéral d'expulsion. Et c'est signé le collectif Perse Frontières. L'adresse de contact est la suivante, perse-frontières@noborders.ch. Le numéro de téléphone est le suivant, 076 819 78 88. Toutes ces informations sont sur le site www.libradio avec moult podcasts que l'on a captés ici et là, et notamment un des plus intéressants qui est le dernier, qui était l'annonce de cette manifestation où on est revenu sur cette situation et sur le déni de ce problème-là de la part des services de M. Podja et le zèle inutile, inopérant, nuisible, je dirais même, du service de M. Maudet. Alors, Roxane, tu t'es rendue à cette manifestation. Quel en est ton ressenti?
Alors, effectivement, déjà, je suis passée un peu plus tôt dans l'après-midi en bas de la promenade de la Treille. Et j'ai vu comme ça le canon à eau. Et c'est vrai que du coup, ben, on se dit, OK, ça lance une certaine ambiance, on va dire. Du coup, ben, forcément, moi, par rapport à certaines personnes que je savais qui devaient venir, ben, on prévient un peu parce que ça a quand même de grosses conséquences. Il y avait aussi des groupes de policiers qui étaient placés à différents endroits. Donc vraiment, ça met une vraie pression. Tout le monde n'est pas forcément prêt à assumer ça, ce qui est totalement normal. Tout le monde n'en a pas la capacité. Et du coup, ben, c'est vrai que dans le cadre d'une manifestation en plus autorisée, c'est difficilement compréhensible.
Tout à fait. Alors voilà, si on peut revenir sur l'atmosphère de cette manifestation, on avait d'un côté, j'ai l'impression, la volonté de faire quelque chose un peu festif et en tout cas convivial. Mm-hmm. Et on a en face une autorité qui, elle, ne l'entend pas de cette oreille-là, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Okay. Parce que c'est vrai qu'au niveau des manifestants, c'était totalement bon enfant. Il n'y avait aucune violence, aucune agressivité. Donc un tel déploiement de force n'était à mon sens absolument pas nécessaire.
Ok. Et alors toi, comment est-ce que tu expliques ça? Quel est ton jugement par rapport à ça, ton interprétation de ces faits-là?
Selon moi, c'est une manière de nous faire plier par la force, en fait. Parce qu'ils savent très bien que justement qu'il y aura toute une partie de la population qui ne pourra pas venir s'exprimer. Et en infléchissant sur le nombre de cette manière, eh ben, ça leur permet de nous amoindrir, en fait.
Ça veut dire qu'effectivement, directement, on influence sur le nombre de manifestants. Et du coup, derrière, de dire finalement, personne ne s'y intéresse, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de problème là où vous dites qu'il y en a un, c'est ça qui est.
Exactement.
D'accord. Ouais. Et selon toi, est-ce qu'il n'y a pas également le risque de l'escalade? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a déjà vu en des temps reculés, mais pas tant que ça, qu'une présence massive, spectaculaire de policiers, finalement, suscite un embarras et suscite des fois, justement, des envolées un peu lyriques comme ça, que, évidemment, on ne justifie en aucune manière, mais qui, du coup, chez des plus jeunes peut-être, ou chez certaines personnes qui se sentiraient, du coup, un petit peu agressées, même un truc défensif, mais, du coup, un émoi plus, disons, offensif.
Tout à fait. Justement, il y a à quelque part, dans cette action, une sorte de provocation derrière. Et même moi qui ne suis absolument pas pour faire des actions violentes, irréfléchies et tout ça, cette pression-là, je la ressens et finalement, ça donne envie d'une réaction à quelque part. parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de se laisser écraser de la sorte et que finalement la seule manière de se faire entendre peut-être est celle-ci, même si j'ose espérer que ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment l'impression que ça donne finalement à certaines personnes.
Ouais. Alors, parce qu'effectivement, on a parlé d'un nombre surnuméraire de policiers, mais également d'un outil, d'un appareillage incroyable, typique le canon à eau. Est-ce qu'il y a matière à sortir un canon à eau alors qu'une manifestation autorisée, on le rappelle, négociée dans son parcours, dans sa durée, négociée dans le nom des gens, parce que nous sommes soumis à une loi sur la manifestation dure à Genève tout de même. Est-ce que là, de quelle manière pourrait-on justifier l'usage ou en tout cas l'apparition de ce canon à eau ?
Pour moi, là, dans ce cas-là, précisément, ça ne se justifie absolument pas.
Est-ce qu'on sent quelque part la volonté d'un passage en force de la police, de dire, voilà, c'est nous les chefs, on fait comme on veut, tout ça, tout ça ?
Alors, ça complètement. Et puis, c'est aussi, d'une certaine manière, une façon de criminaliser aussi les gens qui prennent ce parti-là. Et par exemple, justement, en imaginant, par exemple, les personnes qui ne sont pas forcément au courant de la manifestation et puis qui voient tout ce déploiement de forces de police... Oui, ça donne vraiment cette impression que on est criminel, que notre prise de position est criminelle, injustifiée, alors que c'est tout le contraire.
Ouais, absolument. Quant à l'attitude des forces de l'ordre, est-ce que tu as observé des choses en particulier ou bien d'une manière quand même relativement raisonnable, si les Pandores sont restés à leur place ?
Non, ils sont restés à leur place. Il n'y a pas eu de geste d'une quelconque manière qui aurait pu être déplacé. La seule chose que je reproche, c'est que dans le parcours qui avait été accepté à la base, on était censé pouvoir s'arrêter un moment devant le siège de l'hospice à Rives, et que finalement on nous a détourné de ce trajet-là et puis qu'on n'y est pas passé du tout.
Ça, à quel moment ça s'est produit ? Dans le sens où c'était pendant la manif, la police a dit non, vous ne vous arrêterez pas, ou c'est en amont ? Tu sais quelque chose par rapport à ça ?
D'après ce que j'ai compris, mais c'est sans certitude, ça s'est passé vraiment pendant la manif, de la manière dont on a été dirigé par la police. On a été coincé, puis on a été détourné du côté du collège pour adultes.
Ouais. Y a-t-il eu des incidents autres à déplorer que ce que tu cites là ? Parce qu'on peut parler également d'incidents. Quand on n'assume pas un tracé qui a été convenu à l'avance par les deux parties... Il peut être dangereux de le remettre en question sur place. Certainement que c'est de la provocation. Ou alors, si ça n'est pas de la provocation, c'est un travail mal fait, très mal fait.
Tout à fait, c'est sûr. Et puis, c'est encore une manière de pas nous écouter, à quelque part. De pas prendre en compte réellement quelle est la demande derrière cette manifestation.
Ouais. Il y a un déni là, effectivement, en tout cas une sourde oreille, hein, on
tout
a
à
l'impression.
Fait.
Selon toi, y a-t-il eu là, du coup, atteinte à la liberté d'expression ? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce... Ou selon toi, ça n'est que quelque chose, voilà, qu'une période ou un moment un petit peu délicat où tout le monde s'énerve ? Ou selon toi, il y a vraiment quelque chose là qui est en train, comment dire, de basculer ?
Non, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de basculer, parce que si on voulait s'arrêter devant l'hospice général, c'est parce qu'il y a un réel symbole derrière, c'est eux qui s'occupe de la gestion justement des personnes réfugiées. Et du coup, le fait de ne pas nous y avoir laissé aller, c'est quand même vraiment symbolique à mon sens.
Ouais. Et lorsqu'on n'écoute plus les gens qui essayent de s'exprimer, parce que descendre dans la rue, ça n'est pas anodin. Ça veut dire affronter le froid, marcher, éventuellement se faire un petit peu bousculer. Comme tu l'as dit au début, ce n'est pas anodin du tout. C'est-à-dire que les personnes qui sont là avaient quand même des choses à dire. Et puis, on peut s'imaginer que si, même à ce moment-là, les personnes qui souhaitent exprimer des choses ne le peuvent plus, quelles seront les prochaines soupapes qui permettront une sorte de dialogue ou d'expression populaire selon toi ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque justement d'aller à l'escalade là aussi ?
Justement, c'est là que pour moi ça devient dangereux, c'est que si on ne laisse pas les gens s'exprimer de cette manière qui est somme toute légale à la base et qui permet justement de canaliser peut-être un certain ressenti, ça risque d'amener justement des débordements et je ne pense pas que ce soit constructif ni dans un sens ni dans l'autre en fait. Personne n'a rien à y gagner. Donc... je pense que les autorités ont une vraie responsabilité de ce point de vue-là et qu'il ferait vraiment bien de prendre en compte cette opinion d'une partie de la population, en tout cas.
Ouais. Et alors, pour en terminer, avant qu'on livre la parole aux personnes qui sont parmi nous, si par hasard des questions surgissent, que peut-on, selon toi, espérer de la part de la police, ou que peut-on espérer, selon toi, de la part de ceux qui envoient la police ?
Qui nous écoutent plus, qui prennent vraiment en compte toute cette situation dans son ensemble, la souffrance des gens qu'il y a derrière, parce que s'il y a cette prise de position, c'est pas un caprice, c'est qu'il y a des gens qui vivent réellement ça sur du long terme. Comme on a pu le voir, des policiers se sont plaints de leurs conditions dans un bunker pour 2-3 jours passés dedans, alors que parmi les réfugiés, il y a des gens qui y passent 18 mois, ce qui est vraiment énorme. Donc peut-être que de prendre en compte justement le fait que si d'un côté on entend entre guillemets la plainte d'une partie de la population pour 2 jours, il me semble que c'est plus que légitime d'entendre la plainte d'une autre partie de la population qui, elle, en plus, y passe un nombre de jours incommensurable.
Absolument. Alors, y a-t-il parmi nous des questions qui surgiraient ? Et si c'est le cas, eh bien voilà, il faut prendre un micro.
Moi, je pense en fait que l'hospice général, ils n'avaient pas de rideau et ils se sont dit, si on se fait taguer, on n'y verra plus jour. Et je pense aussi que pour le canon à eau, c'est pas ce que tu dis. Ils voulaient terminer avec une soirée mousse.
C'est certainement ça.
C'est vrai, j'y avais pas songé.
Ouais, ils ont des idées comme ça derrière. Ouais. Ok, d'autres questions qui surgiraient ou on s'arrête là ? Alors peut-être pour terminer, on va peut-être rappeler que les policiers eux-mêmes ont fait appel à leur droit de grève il y a de cela pas si longtemps, que ce droit de grève non seulement a été respecté, mais ils l'auraient accordé, et c'est normal, c'est légal, et qu'ils devraient peut-être alors du coup réfléchir un petit peu plus loin que le bout du nez et que le bout peut-être des ordres qu'on leur donne, et qu'il y a légalité et légitimité. Ce sont peut-être deux notions qu'ils feraient bien de se réapproprier eux-mêmes.
Tout à fait, tout à fait.
On y va comme ça. D'accord. Écoute, merci beaucoup Roxane pour ton témoignage.
Merci à toi.
Nous allons, avec beaucoup de plaisir, pour notre part, bien entendu, rester attentifs à tout ce qui se passe du côté de Perce-Frontière, mais pas que. Hein. Il y a toute la chaîne de solidarité qui se met en place de la société civile pour accueillir ces personnes, pour contrer cette criminalisation qui a cours actuellement. Et effectivement, notamment sur le site de Libre Radio, il y a une page dédiée qui s'appelle Refugees Welcome, dans laquelle on recense tous les entretiens qu'on a pu faire avec des personnes des TAT, mais également de Franck Thomas et toutes ces personnes-là qu'on a pu rencontrer. Et puis, bien entendu, nos bunkers, etc. Le collectif R à Lausanne fait également un travail impressionnant. Alors, on salue ce courage-là et bien entendu, on continuera de relayer cette information-là. Roxane, merci beaucoup à toi.
Merci.
Alors, pour notre compte, eh bien, nous allons faire une petite pause musicale, une chanson, et puis juste derrière, eh bien, le temps sera venu de passer une partie seulement de l'entretien avec Vassia concernant l'apiculture urbaine. Eh bien, c'est pas grave, on fera ça en plusieurs épisodes. Le premier épisode, c'est dans 5 minutes, mais avant ça, une petite pause musicale quand même.